Je vais partir ça tout de suite pour pas l'oublier cette semaine. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'on était le mois passé? Il faut au moins dire Luc.
Amen.
Je sais, hein, des fois, moi, je m'en rends pas compte parce que il y a quand même quasiment un mois entre les séquences qu'on se voit. Fait que des fois, ça peut être un peu dur de suivre. Mais on était dans Luc 12. On était dans... En fait, on avait vu la fin de Luc 11 et le début de Luc 12, les 12 premiers versets de Luc 12, dans lesquels on avait vu une mise en garde, hein? Une mise en garde de Jésus lui-même contre les pharisiens, contre les scribes, contre les docteurs de la loi, et finalement une mise en garde à ses apôtres même contre les dangers qui les guettaient par rapport à l'hypocrisie. Et aujourd'hui, on fait le saut. C'est pas un thème qui est totalement déconnecté de celui-ci, mais comme je crois que je l'ai déjà mentionné avec vous, mais Luc, dans son évangile, agence les choses par thématique et non pas nécessairement par chronologie, comme d'autres évangiles. Donc, Luc fait un saut, mais un saut qui est comme un peu thématique à ce point-ci. Après avoir parlé de l'hypocrisie et après avoir donné le remède à ses apôtres pour s'éloigner de l'hypocrisie, ce remède étant la crainte de Dieu, hein, de craindre Dieu, de craindre le seul vrai Dieu, le Dieu qui a la puissance, le pouvoir et l'autorité nécessaires pour juger de façon juste et sainte tous les péchés de tous les hommes. C'est la raison qu'on doit le craindre, avec révérence et avec humilité. Mais on a vu aussi qu'il y avait un message d'assurance et d'espoir et pour le chrétien, pour celui qui est déjà pardonné, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est juste un petit récapitulatif de la dernière fois, juste pour vous remettre un peu dedans, parce que des fois, je sais que ça peut être un peu sec. Oh, je fais du vent. Mais ici, Luc change de danger. On passe du danger de l'hypocrisie, hein, la religiosité d'apparence, si on pourrait dire. Et maintenant, Luc va s'attaquer à un autre danger, celui des richesses mondaines. On voit que le bloc de texte que l'on va voir ce matin, qui est celui entre le verset 13 jusqu'au verset 21, puis en réalité, bon, le vrai bloc va plus loin que ça, mais il fallait le séparer à quelque part, sinon ça aurait été juste trop long, il y aurait eu trop de stock dans la prédication. Mais on voit que dans ce texte, entre 13 et 21, il y a deux, à l'intérieur même de ça, il y a comme deux sections. Il y a une section dans laquelle la première est une intervention de Jésus et dans une espèce de dispute d'héritage familial. Un précepte nous est donné par rapport à la richesse, par rapport à comment est-ce qu'on devrait être en relation avec la richesse en tant que chrétien. Et qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à ces choses? Et ensuite vient l'exemple que Jésus donne lui-même pour répondre à cette situation. Donc, Jésus va donner une parabole, la parabole d'un riche insensé. Est-ce que je viens d'arracher ça, moi, là? Ma force herculéenne. Jusque mes gars vous diront, en tout cas. Je les brainwash comme il faut, t'sais. Papa, c'est le plus fort. Ils vont être surpris, mais qu'ils apprennent que c'est pas vrai. Non, c'est pas des farces. J'essaie de pas mentir à mes enfants. Ça me fait tout le temps rire quand que je vois des... Il y avait des articles que je voyais passer sur le Facebook de ma femme cette semaine qui disaient « Comment dire à vos enfants plus vieux que le Père Noël n'existe pas? » Je me disais « Ben, c'est pas un problème, je leur ai jamais menti. » J'avais dit qu'il existait avec elle. Hein? J'ai pas besoin de leur expliquer. Par contre, mes enfants vont pas à l'école publique, fait qu'ils n'ont pas l'occasion de casser les rêves de d'autres enfants. C'est peut-être à mon avantage. Je passerai pour le parrain ingrat. Désolé. On divague. Faisons la lecture ensemble des versets 13 à 21. On pourra sauter dans l'exégèse après. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Arrêtons là. Luc pense du thème de la persécution, de l'hypocrisie, et un peu comme dans ce qui peut nous sembler du coq à l'âne, nous aborde maintenant le texte, une parabole qui nous parle des dangers des richesses mondaines, ou de ce que j'ai appelé dans mon titre « des richesses illusoires ». Pourquoi un tel changement de thème? Eh bien, vous savez, la persécution implique souvent l'ostracisme, c'est-à-dire d'être que les gens sont placés à part, sont séclusionnés de la société, des amis ou de peu importe, sont ostracisés par la société. Ça implique souvent la perte de moyens de subsistance financiers. Hein, les chrétiens qui étaient persécutés sous les empereurs romains, souvent, il n'y avait pas de travail, ils devaient dépendre de des gens charitables qui leur donnaient de la nourriture, etc. Et dans un contexte tel que la persécution, un des péchés qui pourrait nous tenter serait de s'amasser des biens et des richesses. Parce que souvent, la recherche de la sécurité va être un moyen naturel de contrer la persécution. On va chercher à se réconforter dans ce qu'on a plutôt que de faire face à des persécutions et à des problèmes et à du rejet, etc. Donc, les deux thèmes ne sont pas sans lien nécessairement un avec l'autre. Il y a un danger, comme Jésus le dit lui-même et utilise la parabole pour l'illustrer, il y a un grand danger à mettre toute sa sécurité dans des richesses ici-bas. Tout comme dans la section juste avant, Jésus a utilisé les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, il les a utilisés comme des modèles, des mauvais modèles, des modèles à ne pas prendre, et il a utilisé ces hommes-là pour dire à leurs apôtres, « Regardez à quoi ça ressemble des hypocrites. » Voici le tableau, eux ça ne l'est. Faites pas comme ça. Soyez intègres, soyez des hommes de Dieu. Dans Jacques qui va dire, ayez la vraie religion, hein? Pure et sans tâche. Et dans la section présente, Jésus refait un peu le même exercice. Il va utiliser une situation dans laquelle il décèle de l'avarice d'un homme pour enseigner ses disciples à placer leur foi dans autre chose que les biens matériels. La première chose qui nous frappe aux yeux quand on lit le texte, dans les tout premiers passages, c'est que le jeune homme, on ne sait pas s'il est nécessairement jeune, mais l'homme demande à Jésus, exige que Jésus lui donne la part de l'héritage qui lui revient. Dans le contexte, l'homme interpelle Jésus pour trancher un débat d'héritage. ce qui n'était pas totalement loufoque dans le contexte juif israélite du temps. L'homme s'adresse à Jésus comme didascalé, c'est-à-dire comme un titre d'enseignant, c'est un titre respectueux. Donc, il manque pas de respect quand il s'adresse à Jésus. Il l'adresse comme il adresserait n'importe quel autre rabbi, comme n'importe quel autre docteur de la loi à son temps. Et c'était assez commun à l'époque que les rabbis avaient comme fonction, si on veut dire, de trancher en matière de loi. Hein, c'était eux qui connaissaient la loi mosaïque, c'était eux qui connaissaient toutes les lois de l'Ancien Testament. Donc, les gens allaient souvent vers eux pour les contestations qui avaient rapport avec la loi. L'héritage fait partie de cette grande catégorie-là. Donc, la situation n'est pas atypique, historiquement parlant. Ça aurait été normal que, dans une dispute quelconque, financière ou d'héritage, quelqu'un ait voir un maître de la Torah pour avoir l'exécution d'un jugement qui était en accord avec les lois de la Torah, les lois de l'Ancien Testament. Donc, ce qui est quelque peu étonnant n'est pas tant la question, mais la réponse de Jésus à cette question. Un coup qu'on comprend ce contexte, Jésus lui répond assez clairement et refuse catégoriquement de trancher sur le débat. Et sa réponse nous donne quelques aperçus. Premièrement, on voit assez clairement que Jésus ne considérait pas sa mission comme celle d'un simple rabbi. Jésus ne se considère pas lui-même comme un simple enseignant. Qui m'a fait juge pour que je porte un jugement sur ta situation d'héritage? Hein? C'est essentiellement la réponse que Jésus lui donne à cet homme. Mais on en comprend assez facilement par la façon un peu froide que Jésus lui répond que ce n'était pas la mission principale de Jésus d'intervenir dans des disputes personnelles de ce type-là. Ce n'était pas la raison pour laquelle il était venu sur terre. Il n'était pas un simple rabbi. En fait, le mot qui est utilisé nous démontre à quel point Jésus, c'est pratiquement une réprimande de la façon qu'il reprend. Parce que le mot qui est utilisé en grec, c'est anthropologie, hein, l'étude des hommes. Anthrope, c'est le nom générique pour l'humanité, pour l'homme. Donc, il l'adresse comme non-homme. C'est comme si je te parlais puis je te disais « non, homme ». C'est très impersonnel, ça n'a pas beaucoup de saveur. Mais il fait une distance. Le commentateur Plummer dit ceci, il fait remarquer que l'homme, et c'est probablement la raison pour laquelle Jésus répond ainsi, l'homme ne demande pas vraiment à Jésus d'arbitrer la situation. Mais l'homme demande à Jésus de décider contre son frère, de lui donner l'héritage. C'est pas tellement une demande d'arbitrage qu'une demande d'imposition, hein? Comme un juge un peu injuste qui n'entendrait même pas l'autre côté et qui dirait « Non, coupable! » Bang! Tu sais, voilà. Donc, il veut juste que Jésus utilise son autorité essentiellement pour avoir un gain. Donc, qu'est-ce que Jésus voit tout de suite? Dans la question même de l'homme, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de l'avarice. Et c'est exactement la raison pour laquelle il donne la parabole qu'il va donner par après. Évidemment que Jésus ne va pas trancher en son honneur. En fait, il refuse catégoriquement même de le faire. Et j'imagine que quand il a donné sa parabole, l'homme a compris pourquoi Jésus ne voulait pas le faire. Parce qu'il a compris que ce qui était dans son cœur, c'était de l'avarice. Et on ne sait pas, on ne sait même pas, peut-être que c'est justifié dans un sens humainement parlant, la requête de l'homme. Peut-être que son frère ne lui a vraiment pas donné l'héritage qu'il lui devait, mais tout pointe, la réponse de Jésus nous pointe plutôt vers un contexte qui pourrait sous-entendre qu'il n'était pas dans son droit de demander ce qu'il demandait. Mais bon, c'est des spéculations, le texte ne le dit pas vraiment, fait que on ne s'avance pas trop loin dans l'idée. Mais la réponse que Jésus donne à cet homme nous fait Ce n'est pas une allusion directe au texte, mais ça me fait penser au texte d'Exode 2, verset 14, qui est aussi repris un peu plus tard par Acte 7. Dans Exode 2, 14, on lit ceci, « Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? » C'est la personne qui pose la question à Moïse. Hein, c'est pas une allusion directe au texte, peut-être juste un écho. Mais voilà que Jésus demande la même question à cet homme. Qui m'a établi juge sur toi pour ce genre de dispute? La demande initiale nous fait transpire de l'avarice et de la convoitise de l'homme. Et tout de suite au verset 15, Jésus va y aller de cet avertissement très clair, très net. Et par la suite, il va donner un exemple, une parabole. Mais au verset 15, on lit puis, il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Même si vous avez beaucoup de choses, la vie ne dépend pas de vos choses. Ce que Jésus est en train de dire essentiellement. L'avertissement est fait de façon générale par Jésus. Évidemment, dans le contexte, il parle à cet homme hein, qui conteste son héritage, mais je pense qu'on peut se l'appliquer à nous aujourd'hui aussi. Je pense que ce jeune homme n'était pas seul, le premier ni le dernier à avoir des problèmes avec l'avarice. Vous savez, l'avarice n'est pas seulement un problème d'argent. Évidemment, ça comprend l'argent. Mais c'est un terme grec qui signifie « avoir plus ». Être avare, c'est de toujours vouloir avoir plus. Et si vous regardez aux multimilliardaires de ce monde, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le fait d'avoir des choses qui fait qu'on n'a plus le goût d'avoir des choses. OK? Parce que tous ces hommes-là et ces femmes-là veulent toujours plus de choses, même s'ils en ont plus que tout le monde. Il n'y a aucun montant magique auquel on arrive, puis que là, soudainement, notre âme arrête d'être avare, puis on se dit, « Ah, j'ai plus besoin de choses. » C'est un péché. C'est quelque chose qui, pour laquelle notre âme, notre chair, je devrais dire, pas notre âme, notre chair a une soif incessante, qui n'arrête jamais. Et si ce n'est pas contrôlé, si ce n'est pas... comme dirait notre fameux John Owen, mortifié, hein? Si on ne mortifie pas le péché, il va prendre racine en nous. Donc, ce désir de toujours plus peut être évidemment avec l'argent, avec les possessions, mais c'est quelque chose qui est quantitatif, hein? Peu importe de la qualité des choses, on veut avoir beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, beaucoup de biens. Des fois, ça peut être beaucoup d'amis, hein? Ça peut être toutes sortes de choses. Ce désir d'avarice et de besoin de toujours plus est tellement rendu normal dans notre société aujourd'hui que si on regarde à la définition de comment les gens pensent qu'ils trouvent le succès dans notre monde, on va se rendre compte très rapidement que les gens ont l'impression qu'ils ont du succès dans notre monde quand ils ont beaucoup de choses. C'est rendu tellement intégralement partie de notre culture, de notre société, de notre chair collectivement, que les gens se mesurent par leur avarice, littéralement. Le commentateur Darrell Buck dit ceci, « Le danger de la poursuite des biens est qu'elle ne peut nous... Le danger de la poursuite des biens est qu'elle peut nous rendre insensibles aux personnes. » La cupidité peut créer une distorsion de ce qu'est la vie, parce que la définition de la vie ne se trouve pas dans les objets, mais dans les relations, spécialement à Dieu et à sa volonté. Définir la vie en termes de choses est ultimement l'inversion de la créature servant la création et ignorant le Créateur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est avare? On sert ce que Dieu a créé au lieu de servir le Créateur. On devient esclave des choses qu'on désire dans notre cœur. comme je l'ai dit, c'est une erreur, c'est un péché rampant dans notre société, c'est inévitable, c'est glorifié même. On fait des annonces hein, de choses luxueuses, on le met sur des billboards, des grosses pancartes sur le bord de l'autoroute. Hein. Et souvent, on va mélanger du sexe avec ça, comme ça. C'est deux péchés très charnels, beaucoup et ça marche. Et c'est la preuve que notre nature est naturellement corrompue, parce que ça marche et les gens tombent et pêchent allègrement. Donc, comment est-ce qu'on doit agir en tant que chrétien? Comment est-ce qu'on doit marcher, servir le Seigneur dans un monde qui est tel? Comment est-ce qu'on doit définir le succès en tant que chrétien? Et c'est dur parce que le monde se mesure avec un certain standard que nous, on rejette complètement. Donc, c'est quoi notre standard à nous en tant que chrétien pour dire « j'ai eu du succès dans ma vie »? Il faut y penser. Connaître Dieu, servir Dieu, on peut commencer par ça. Ce serait bon des bons barèmes de succès pour un chrétien. Et on pourrait même ajouter connaître Dieu, servir Dieu, peu importe ce qu'on a comme chose. Hein? Vous savez, l'avarice, la convoitise, peu importe comment on veut l'appeler là, ce matin, là, la recherche et la poursuite du bonheur par les choses matérielles n'est pas inconséquente. C'est un péché, en fait, qui est souvent lié dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament à l'idolâtrie. Rien de moins. Colossiens 3:5 dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est de l'idolâtrie. » Dans Éphésiens 5:5 « Car sachez-le, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » La cupidité est liée à l'idolâtrie. Parce qu'elle apporte les hommes à placer leur confiance dans ce qu'ils ont et dans ce qu'ils sont eux, et non pas dans celui qui les a créés, non pas en celui qui pourvoit. C'est un peu aussi stupide que quelqu'un qui travaille sur une scène de montage, qui est à la fin de la chaîne et qui prend toute sa gloire dans le fait que dans son travail, hein, il prend la chose, puis il la met là, puis il se dit tout le temps « Wow, tu sais, je fais tellement un bon travail, j'ai pas besoin du gars au début de la chaîne qui met l'objet sur le convoyeur. » Et là, un jour, il va se rendre compte que si la personne au début de la chaîne ne met pas l'objet sur le convoyeur, lui, il pourra pas faire sa job. Mais il est convaincu qu'il se définit par son succès de comment il fait son travail. Sans réaliser que en tant que chrétien, on devrait prendre gloire et trouver notre gloire et notre richesse dans celui qui pourvoit, dans celui qui est le fournisseur, dans celui qui est le créateur. Au lieu, on trouve notre joie dans la création elle-même. La cupidité est liée à l'idolâtrie parce qu'elle nous apporte en tant qu'humains à placer notre confiance et à mettre notre sécurité dans les choses de ce monde, et même en nous-mêmes, en nos possessions, en nos biens. Hein, un peu comme l'exemple que Jésus va donner. Les biens matériels, dans ce moment, deviennent notre Dieu. Ils prennent la place de Dieu, littéralement. R.C. Sproul dit ceci, « Jésus ne parle pas du péché d'avoir de la richesse. Il ne nie pas non plus la validité de gagner un revenu ou de posséder des biens matériels. Ce dont il met en garde, c'est plutôt la convoitise, cette attitude du cœur qui amène une personne à être totalement préoccupée par l'argent. Il nous dit que la vie d'un homme ne consiste pas en l'abondance de ses biens personnels. C'est une leçon non contre les choses matérielles, mais contre le matérialisme. Le matérialisme est cette vision du monde qui voit l'essence de la vie se trouver dans les possessions et dans la richesse. » Quand Luc nous interpelle, il nous dit « Soyez sur vos gardes. » Non seulement c'est un impératif, mais c'est un, C'est quelque chose qui est actif. On doit être sur nos gardes. Prenez garde d'eux. On est activement en train de protéger notre cœur contre ces dangers. Et comme Sproul vient juste de le dire, le danger n'est pas d'avoir des choses. On vit en Amérique du Nord, on est tous riches. On a tous des choses. Et ce n'est pas un problème qu'on ait des choses. Ce n'est même pas un problème d'avoir beaucoup de choses, en fait. La richesse n'est pas le problème. C'est le cœur de l'homme qui place sa foi dans la richesse qui est le problème. Combien d'hommes dans l'Ancien Testament, Abraham, Job, David, Salomon, probablement qui seraient tous considérés comme des millionnaires aujourd'hui. Et jamais dans les textes des Écritures, on voit que Dieu les accuse contre la richesse qu'ils possèdent. Mais on voit que ce n'est pas nécessairement des hommes qui ont pris plaisir en leur richesse. Donc, il y a une distinction importante à faire. Quand Jésus, par l'entremise de notre texte dans Luc ce matin, nous interpelle à ne pas devenir avare, ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des moines monastiques avec rien, qu'on doit tous vendre ce qu'on possède. Ça veut juste dire qu'on doit apprendre à ne pas placer toute notre confiance, notre sécurité, notre foi dans ces choses que Dieu nous donne. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est Dieu qui nous les donne. Parce qu'il n'y a rien ici-bas qu'on ne possède réellement. Dieu nous donne toutes choses qu'on a. Donc oui, on peut prendre plaisir en nos richesses. Oui, on peut prendre plaisir en ce que Dieu nous donne. On peut prendre plaisir au fait qu'on a un toit, qu'on a une maison, qu'on a un appartement, qu'on a des enfants. Mais ne plaçons pas notre sécurité éternelle dans ces choses. C'est de la folie. C'est ce que Jésus va illustrer. On a tendance à se définir par ce qu'on possède. Du moins, les gens ont cette tendance-là. J'espère que ce n'est pas notre tendance en tant que chrétien. Mais la vie dépend de Dieu. La vie dépend du Créateur. Et ce serait futile de commencer à placer notre foi dans la création. Et c'est une réelle tentation de notre chair que d'idolâtrer les possessions. C'est pourquoi la parole de Dieu en parle abondamment et souvent. James Edward dit ceci: peu de préceptes que Jésus donne sont plus pertinents pour la mentalité de consommateur de notre monde moderne que cette déclaration, car la vie ne peut être mesurée ou jugée par la quantité de choses que nous possédons, amassons ou gagnons. Quand que Luc nous parle de cette vraie vie, le terme employé, zoé, pour la vie, représente un terme grec qui veut dire une vie comblée, une vie qui offre le pardon des péchés, une vie qui offre une valeur, une récompense. C'est une vie complète, la plénitude de la vie. Parce qu'il y a d'autres termes en grec qui pourraient décrire la vie sous d'autres différents angles. Mais zoé est le plus complet des termes qui peut être utilisé. On parle de la vie et tout ce qu'elle englobe. La vraie vie, la vraie richesse, c'est de posséder Dieu comme notre seul et vrai unique trésor. Dieu peut nous donner un paquet de choses alentour de ça, c'est pas un problème. Mais si on ne possède pas Dieu, on n'a rien. Vous pourriez posséder tout le monde entier, et si vous n'avez pas Dieu, vous allez mourir, vous allez périr dans vos péchés et souffrir la condamnation éternelle qui est le juste jugement de vos péchés. Et ça, c'est la réalité de la nature pécheresse et déchue de l'humanité. Et c'est ce qui nous amène au second bloc. Le temps passe vite. Des versets 16 à 21. Où Jésus va utiliser cette question, cette demande plutôt, de l'homme qui veut une part d'héritage pour illustrer l'avarice, pour illustrer en même temps la stupidité de l'avarice qui est dans le cœur de cet homme, pour lui faire voir à quel point il est Il a tort de placer son espérance dans ces choses. Et c'est dans ce contexte qu'il nous donne la parabole du riche insensé. Une parabole qui nous illustre parfaitement la nature illusoire, temporaire des richesses qu'on peut accumuler dans ce monde. La situation qui nous est décrite par Jésus à partir du verset 16 est celle d'un, ce qui semble être un fermier, un homme qui a des terres, hein? Un homme qui préalablement était probablement riche. S'il y a des terres, c'est parce qu'il y a déjà une certaine richesse. Donc, il est déjà favorable. Il est déjà dans un état favorable, ce qui semble être voulu de Dieu, d'ailleurs. Ça semble être la récolte dont il récolte de façon abondante, semble être un résultat d'un travail honnête. Ça semble être Dieu qui pourvoit pour sa récolte qui est abondante. Rien dans le texte nous permet de penser qu'il a volé son voisin ou qu'il a fait quelque chose de mal. C'est quelque chose qui semble totalement, dans le contexte initial, légitime. C'est sa récolte, c'est ses terres, c'est Dieu qui lui a donné. Et il y a eu une récolte d'abondance. Gloire à Dieu! C'est ce qui devrait être la réponse naturelle. Donc, initialement, rien n'accuse cet homme. Jésus ne l'accuse pas d'avoir des terres, Jésus ne l'accuse pas d'avoir une abondance de richesses. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Hendrickson nous dit ceci: quel était le problème de ce fermier? Le fait qu'il ait réussi? Bien sûr que non. Nulle part dans l'Écriture, on condamne le succès de la richesse en tant que telle. Dieu n'a jamais réprimandé Abraham, Salomon, Job, Joseph parce qu'ils étaient riches. L'introduction de la parabole établit la richesse de l'homme comme un point qui est neutre, qui n'a pas vraiment d'importance en réalité. Quand on regarde, Dieu la traite comme quelque chose qui est un fait. Il y avait des terres, puis il y a eu une abondance. C'est à la fois ni moral, ni amoral, immoral. Et c'est dans cette foulée qu'on voit ce qu'on appelle un siloloque, hein, pour ceux qui aiment les termes de poésie puis de français, là. Ça, c'est quelqu'un qui relate de ses propres pensées à voix haute. Hein. L'homme, il parle de ce qu'il pense, mais à voix haute. L'homme riche introduit ses pensées et introduit le problème. Hein? Il voit l'abondance des richesses qu'il a récoltées. Et au verset 17, on voit que le fermier présume que sa récolte sera toujours bonne. Quand on regarde comment il voit l'abondance de sa récolte, on dirait que tout ce qu'il se dit, c'est « j'ai pas de place pour mettre tout ça ». Puis ça va durer éternellement, fait que où est-ce que je mets tout ça? C'est juste un problème d'entreposage pour lui. Daryl Buck fait une intéressante évaluation du texte grec, qui est évidente en français, mais peut-être un peu perdue quand on ne porte pas attention, qui est plus évidente en grec. Il dit ceci: car tout le long de ces versets, la caractéristique stylique majeure est la présence du pronom « mon », sans parler des nombreux verbes au singulier et à la première personne. Le fruit du terrain et des autres éléments de la parabole sont décrits à plusieurs reprises comme « mon fruit »,« ma grange »,« mes biens »,« mon âme ». Un tel langage suggère l'intérêt personnel, un objectif qui est souvent le produit naturel d'une richesse méritée. L'homme avait l'impression qu'il avait mérité ça, lui. C'était ses terres, c'était sa récolte, ses granges, ses affaires. C'était à lui, il avait bien fait, il avait bien réussi. Puis on voit que c'est empreint de mérite, d'auto-justification. Et le problème est pointé de la part de Jésus. Et le problème qui est pointé n'a même pas rien à faire avec l'entreposage. D'un certain sens, on pourrait même argumenter que C'est normal. Même nos fermiers aujourd'hui entreposent leurs grains hein, pendant l'hiver. C'est normal qu'il y ait un certain nombre de grains qu'on veut entreposer pour les périodes où on n'en aura pas. Il y a un entreposage qui n'est pas hors du commun. Et même ça, Jésus ne semble pas vraiment s'opposer à cette idée-là. Donc, allez pas vendre toutes vos REER là, après ma prédication. Il y a une partie de l'investissement de cet homme qui semble sensé à première vue. Hein? Par contre, on voit trois problèmes avec sa réaction, avec la façon dont il « deal », comme on dit en anglais, qui réagit face à ses richesses, à l'abondance. On voit trois problèmes. Et le premier d'entre ceux-ci, c'est qu'il a une présomption qui est fautive. On pourrait même dire qu'il est hautain dans la façon qu'il présume. Et ça produit de l'avarice chez cet homme. Cet homme prend pour acquis que son corps et que sa vie lui appartient. Regardez de la façon qu'il réagit. Il prend pour acquis que sa vie est à lui, puis qu'il est au contrôle de sa vie, puis que rien va y arriver, puis qu'il peut entreposer toute sa richesse, puis que demain il va être là, puis qu'après-demain il va être là. Et regardez ce que Dieu lui dit. « Non, mais t'es stupide, t'es fou. Demain, je vais te réclamer ton âme. Tu penses réellement que t'es au contrôle de ta vie? » Il le traite d'insensé, de stupide, littéralement. Stupide parce qu'il ose croire que quelqu'un d'autre que le Créateur est au contrôle de ses jours. Et aussi parce que il ose croire que son âme sera rassasiée par la grandeur de sa récolte, par ses richesses. Cet homme est complètement sous l'illusion qu'il va s'asseoir dans son canapé, ou l'équivalent de ce moment-là, dans sa chaise, qu'il va vivre grassement pour le reste de sa vie, qu'il va jouir de la vie, il va boire, il va manger, puis qu'il va prendre plaisir dans ses biens matériels. C'est un faux réconfort. C'est une fausse sécurité qui est basée sur une présomption qui est dans l'erreur à la base. C'est de l'arrogance humaine. Cet homme est non seulement stupide, mais il est arrogant de croire qu'il est au contrôle de sa propre vie. C'est mis en évidence dans le verset 20 quand Jésus dit ceci. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? » Dieu a l'autorité sur la vie. Dieu est au contrôle de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire quand on lit que Dieu donne et reprend la vie? Ça veut dire exactement ça. Personne ici connaît les jours de sa vie. C'est un rappel brutal à cet homme riche que sa pensée, à la base, elle est insensée. Il le traite de Aphron, imbécile. C'est un terme dans l'Ancien Testament qui décrivait celui qui agit sans la sagesse de Dieu, à son propre potentiel de destruction, hein, qui se détruit lui-même en agissant de façon contraire à Dieu. Ce que Jésus lui dit, c'est que l'abondance de ses grains ne sont pas assez pour payer pour sa vie. On ne pourra jamais ramasser assez de choses pour payer le prix de la rançon de notre péché. La question que Jésus lui pose, juste pour un peu tourner le fer dans la plaie, là, en lui disant, maintenant que tu vas mourir demain, maintenant que je t'ai dit que tu vas mourir demain, qui va récolter tes choses? Savez-vous ce que Jésus essaie de lui dire? C'est pas important qu'il va les prendre, ça sera pas toi! C'est ça le but! C'est pas toi qui va l'avoir! Ça peut être n'importe qui d'autre, mais ça sera pas toi. « Dieu nous démontre toute sa souveraineté. Sa souveraineté sur la vie, sa souveraineté sur la mort. Mais encore plus loin, veut nous démontrer que ceux qui vont oser placer leur foi et toute leur espérance et leur sécurité en tant qu'être humain dans leur confort ici-bas vont se planter royalement. Je suis conscient là, qu'il n'y a personne qui veut être persécuté. Je suis conscient qu'il n'y a personne qui aimerait vraiment ça, être pauvre. Et c'est normal, ça vient avec des difficultés. Mais sachez une chose, il y a beaucoup pire que d'être pauvre. La vraie pauvreté n'a rien à voir avec l'argent, puis les richesses, puis les biens matériels. La vraie pauvreté, c'est d'être un pécheur et de ne pas le savoir et de rejeter Dieu jusqu'à ta mort pour ensuite aller en enfer. Ça, c'est pauvre. Et c'est de cette pauvreté-là que le Nouveau Testament nous avertit, que cette parabole nous avertit ce matin. Psaume 39, versets 5 à 8 nous dit, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme un ombre. Il s'agite vainement. Il amasse, il ne sait qu'il recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Hein? Qui sait quand le Seigneur va le rappeler? Qui a la certitude que demain matin, il va vraiment se réveiller? Donc, pourquoi est-ce qu'on placerait notre espérance dans des choses qui sont ici-bas, qu'on ne va pas apporter avec nous? C'est hautain. Deuxième point, deuxième problème que Jésus soulève par cette parabole, c'est que jamais l'homme qui récolte en abondance ne considère les besoins des autres. Et ce fameux commentaire que Daniel Buck dit justement sur « ma récolte, mes granges, mes, je, moi, moi », jamais il parle à la troisième personne, il, tu, vous. Ça n'inclut pas son vocabulaire. On voit que Luc fait par exprès pour relater l'histoire de façon très personnelle, hein, très égoïste. Ce fermier ne pense aucunement aux autres. Il y a des milliers de façons qu'il aurait pu utiliser sa richesse à la gloire de Dieu. Il n'y avait rien de mal à ce qu'il engrange ses granges et ce qu'il garde, ce qu'il pouvait garder. Mais l'excédent, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec? Il aurait pu le donner. Il aurait pu le donner aux pauvres. Il aurait pu nourrir des gens. Il y a plein de choses qu'il aurait pu faire avec qui auraient glorifié Dieu. Mais jamais ça semble lui passer par la tête. Et c'est exprimé par le verset 9. 19, excusez. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Hein? Il y a juste lui dans l'équation. C'est un abandon total et extrême au plaisir de la luxure et à la complaisance. Le commentateur Buck dit justement, « Le confort qui permet à l'homme de se concentrer sur lui-même est le produit de la cupidité. » Le confort qui permet à l'homme de se concentrer sur lui-même est le produit de la cupidité. Si on est rendu confortable à un point tel qu'on pense juste à nous, on est beaucoup trop confortable. C'est un appel constant par la parole de Dieu à être généreux. On a tous connu, j'imagine, des gens chrétiens qui vivaient dans la pauvreté et on a tous connu des gens chrétiens qui vivaient dans la richesse, dans un certain mode de vie luxueux. Et Dieu a absolument rien contre un ni l'autre. Il appelle les riches à être généreux. Il appelle les pauvres à recevoir de la charité des gens qui donnent. Il appelle les pauvres à souffrir la persécution avec foi, s'attendant à l'espérance des choses à venir. Mais jamais un est traité différemment de l'autre. Il faut réaliser que nos possessions ne nous appartiennent pas vraiment. Et tout ce que Dieu nous donne ici-bas, si Dieu nous donne avec abondance, soyons généreux avec ce qui est excédent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'acheter un auto, de s'acheter une maison, profiter de nos biens. Il n'y a aucun problème. Cet homme aurait pu profiter de sa récolte. Jamais Jésus remet ça en question. Mais c'est son attitude de cœur qui a placé toute sa foi dans l'abondance des biens qu'il avait. Au lieu de juste dire « Merci Seigneur, je vais remplir mes granges, puis je vais donner le reste. Je vais partager, parce que tu m'as fait grâce. » Ce qui nous amène, et je l'ai déjà dit, au troisième point, ce qui devrait peut-être sauter aux yeux quand on lit l'illustration, sans compter l'égoïsme, sans compter la nature hautaine des présomptions de l'homme, jamais il ne remercie Dieu. Jamais il dit « Ah, merci Seigneur pour l'abondance de la récolte. Merci Seigneur parce que tu pourvois à mes biens. Merci parce que je vais pouvoir me nourrir cette année. » Jamais, aucune reconnaissance. Non seulement c'est un égoïste, un avare, un homme qui convoite, mais il oublie même de remercier le fournisseur de cette abondance. Et par le fait même, nous démontre à quel point il est idiot ou insensé. Parce que celui qui avait donné, il va pas enlever la récolte, il va lui redemander sa vie. C'est le propre du pécheur de croire qu'il mérite l'abondance. On est tellement égoïste qu'on pense qu'on mérite l'abondance. Les yeux des hommes avares oublient de donner et oublient de remercier, oublient de rendre grâce. Ces hommes démontrent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le psaume 14, verset 1 nous dit « Insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Philip Graham Ryken dit ceci « L'homme riche dans la parabole était ainsi. Il n'a pas remercié Dieu pour les produits abondants de sa terre. Il n'a pas demandé à Dieu ce qu'il devait faire de tout son grain supplémentaire. » Il n'a pas offert son temps et ses talents au service de Dieu. Il n'a pas reconnu la souveraineté de Dieu sur la durée de sa vie. Il ne s'est pas préparé à rencontrer Dieu dans sa mort. Il n'a pas du tout pensé à Dieu. L'homme pensait avoir un problème de stockage. Mais ce qu'il avait vraiment en réalité, c'est un problème spirituel. Le problème numéro un de cet homme était qu'il était athée. Il ne croyait pas en Dieu. Il pensait qu'il était son propre Dieu. Il pensait qu'il pouvait se fier en ses richesses pour vivre éternellement. Et Dieu lui a rappelé que sa vie ne lui appartenait pas. Malheureusement, c'est la triste ironie du sort de notre monde aujourd'hui. Cette parabole de Jésus nous illustre parfaitement comment les gens vivent aujourd'hui même. L'homme se proclame autosuffisant, hein? On est notre propre Dieu. On est ceux qui ont tout et qui n'ont pas besoin de rien. Ceux qui croient vivre longtemps et ceux qui prennent la gloire de Dieu. C'est un beau résumé de comment les gens vivent dans notre monde aujourd'hui. Eh bien, cet homme nous rappelle la parabole est redevable à Dieu, peu importe ce qu'il pense. Chacun des pécheurs ici-bas vont être rappelés au bercail un jour. Et si on est des enfants de Satan, il n'y aura plus de chance dans l'au-delà. C'est un rappel qu'on peut lire dans le psaume 49. Et je pense que je vais terminer avec ça parce que je m'étire un peu déjà. Le psaume 49, qui est pratiquement un résumé de tout ce qu'on vient de voir. Je vais le lire, puis je vais terminer avec ça. Au chef des chantres des fils de Coré, psaume. Écoutez ceci, vous tout peuple, prêtez l'oreille, vous tous habitants du peuple. Petit et grand, riche et pauvre, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont le nom sont honorés sur terre, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que le trésor de sa maison se multiplie, car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau le louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Un psaume qui nous rappelle exactement ce qu'on vient de voir dans Luc. Il compare les hommes qui prennent plaisir dans les choses, pas qui prennent plaisir, mais qui mettent leur plaisir et qui placent leur foi et leur confiance, leur sécurité dans les choses du monde à des bêtes que l'on égorge, qui s'en vont à l'abattoir. Il n'y a pas vraiment plus éphémère que ça comme vie, là. Soyons de ceux qui sont connus non pas pour leur richesse ou pour leur pauvreté, mais peu importe ce que Dieu nous donne, soyons de ceux qui sont connus pour avoir une foi et une sécurité entièrement placée dans ce que Dieu est et dans ce que Dieu nous donne. Et si Dieu nous accorde certaines richesses, qu'on en jouisse. Ne placez pas votre confiance dans ces choses. Et dites-vous pas que demain, vous allez vous réveiller avec votre maison, avec votre char, avec vos affaires. Peut-être que demain, on va se réveiller et il va y avoir une persécution au Québec. Peut-être que vous avez tout perdu si vous êtes chrétien. Prenez rien pour acquis. Remerciez Dieu chaque jour qu'il vous donne. Prenez plaisir dans les choses que vous avez, que Dieu vous donne, mais ne vous attachez surtout pas à la vanité de ce monde. Prions. Merci Seigneur pour ta parole dans Luc ce matin. Merci de nous enseigner, toi qui es le Maître, toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur. Merci notre Dieu parce que tu nous rappelles que, bien que notre chair a encore tendance à vouloir placer sa confiance dans les choses qu'on amasse, combien on désire que toute notre âme soit entièrement dévouée à toi. Que nos cœurs, comme ce psalmiste qu'on vient de lire, que nos cœurs soient de ceux qui ont une vraie intelligence, une vraie richesse, de ceux qui te connaissent et qui placent toute leur foi en toi. Sachant que peu importe ce qu'on peut avoir ou ne pas avoir ici-bas, quand tu vas nous rappeler, nous serons trouvés comme des riches, comme des gens qui possèdent ton Fils Jésus-Christ comme Sauveur. Gloire à toi, gloire à ton nom. Garde nos cœurs de ce péché de l'avarice. Amen.